Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, on va aller sous terre aujourd'hui. Et en particulier avec Célia, que je vais présenter davantage, on va parler des mines d'extraction qui reviennent à la mode. Alors tout d'abord, bonjour Célia.
Bonjour.
Alors bon, Célia vient de sortir un bouquin sur l'extraction des mines, la ruée minière au XXIe siècle, puisqu'il semblerait que ça revienne à la mode. Et Célia est autrice et journaliste, donc elle va nous expliquer un petit peu ce qui est en train de se passer dans le domaine. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement de nouveau sur cette terre par rapport à ces mines d'extraction, puisqu'il semblerait que ça revienne en quelque sorte à la mode?
Alors la mode, c'est... La mode est une chose capricieuse, mais en fait, on n'a jamais cessé d'extraire toujours plus. Notre monde n'a jamais plus reposé sur les mines, sur les métaux, sur les minéraux qu'aujourd'hui. Si on prend par exemple les 20 dernières années, l'extraction minière dans le monde a doublé. Donc c'est colossal. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on reparle de la mine. Pourquoi ? Parce que, en fait, les besoins sont tels et les problèmes de rivalité, les problèmes géostratégiques entre les pays occidentaux, entre la Chine, entre la Russie sont tels que, pour des raisons de souveraineté, les États veulent réouvrir des mines un peu partout, y compris au cœur de l'Europe, y compris en France. C'est pour ça qu'on en parle. Pourquoi ça revient à la mode ? En fait, le deuxième élément, les problèmes de rivalité, réouvrir des mines en Europe, c'est une chose. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle la transition. En fait, la transition, c'est un gigantesque pari extractiviste. La transition, ça consiste à quoi ? Ça consiste à, globalement, électrifier tout ce qui était alimenté jusqu'ici par des énergies fossiles. Donc le gaz, le charbon, le pétrole. Ça veut dire, par exemple, comme on le sait bien, électrifier le parc de véhicules. Mais par exemple, qu'est-ce que ça signifie de mettre des batteries, des véhicules à batterie, sur l'équivalent du parc automobile français aujourd'hui, 39 millions de véhicules. Ça veut dire, en réalité, plus qu'une fois la production mondiale actuelle de cobalt. Plusieurs fois la production mondiale actuelle de lithium. Donc, cette transition, telle qu'elle a été pensée par nos élites, par les dirigeants, les institutions internationales, en réalité, elle va demander énormément de métaux, en plus des métaux que, de toute façon, le reste de la production demande. Par exemple, l'aéronautique. Airbus produit 700 avions par an. 700 avions par an, c'est plus de 60 par mois. Ça veut dire énormément de métaux, du titane, du tungstène, des alliages, des aciers de toutes sortes, avec toutes sortes de métaux dedans. Donc, de toute façon, l'extraction minière augmente et elle va augmenter et être encore plus démultipliée à cause de la transition. Sauf, évidemment, si les populations continuent à s'y opposer, ce qui est tout de même de plus en plus le cas.
Alors c'est de plus en plus le cas en France, puisqu'on a quand même quelques exemples désastreux de pollution qu'on est en train de supporter, je dirais pas gérer, puisque justement on les gère pas plusieurs décennies après la fin de l'extraction, que ce soit en Ariège ou au-dessus de Carcassonne par exemple. Mais il y a d'autres cas de figure, notamment les cas de figure de l'extraction... Je prends l'exemple de l'extraction de cobalt au Maroc, puisque tu as été enquêté sur place. Alors, pourquoi s'intéresser justement à cette extraction de cobalt au Maroc ? C'était pour le compte de qui ? Pourquoi on extrait du cobalt au Maroc ?
Alors moi, je me suis intéressée à cette histoire parce que je connais un peu les mines au Maroc. J'avais été enquêté sur une gigantesque mine d'argent, qui est très argent, c'est un métal très utile pour l'électronique. Et la plupart des mines au Maroc appartiennent à la famille royale marocaine, donc à travers la grande entreprise Managem. Et dans ce cas-là, moi, ce qui m'a interpellée, donc j'étais en train de travailler à mon bureau, et puis je lis les communiqués de BMW et de Renault qui expliquent qu'ils utilisent pour les batteries de leurs véhicules électriques ou vont bientôt utiliser pour leur production du cobalt responsable extrait au Maroc.
Et ah, une bonne nouvelle. Alors, au Maroc, au moins, on sait être responsable.
Ça m'a interpellée parce que, alors déjà, parce qu'il y a une mine de cobalt au Maroc, une seule, mais il se trouve que c'est une mine d'arsenic cobalt. Donc l'arsenic, c'est un poison violent, donc ça paraît difficile de faire une mine de cobalt arsenic responsable. Par ailleurs, les mines consomment énormément d'eau pour le traitement minéralurgique, les premiers traitements à la concentration. En plein désert ou dans une zone quasi désertique comme au sud du Maroc, les mines posent problème. Alors attends, avant ça, je reviens sur la notion de cobalt responsable. Pourquoi du cobalt responsable? Tout simplement parce que, en fait, les ONG du type Amnesty International et les journalistes ont les yeux braqués sur l'extraction catastrophique du cobalt en République démocratique du Congo depuis des années. Depuis 2006, il y a des rapports qui sortent et qui disent, attention, en fait, l'extraction artisanale de cobalt au Congo est en train de sacrifier des gens, sacrifier des enfants. De l'autre côté, il y a des gigantesques mines industrielles de cuivre cobalt exploitées par des Chinois, des entreprises chinoises ou des groupes comme Glencore qui posent aussi d'énormes problèmes. Donc le cobalt congolais a très mauvaise presse et les entreprises en question, BMW, Renault, finalement, se sont dit qu'ils pouvaient devenir clientes de la Managem au Maroc et que voilà, il y aurait pas de scandale. Et en fait, en réalité, il suffit de regarder ce qui se passe, il y a un énorme scandale. Donc nous, moi je suis partie pour mener cette enquête avec un photographe qui s'appelle Benjamin Bern, on était tous les deux. On a été accompagnés par des syndicalistes marocains qui, il se trouve, avaient participé à une grande grève de mineurs dans cette mine de Bouazer il y a 10 ans.
Alors quand tu dis syndicaliste marocain, puisque on connaît un petit peu le Maroc, est-ce qu'ils sont encore en capacité d'exercer leur fonction de syndicaliste? Est-ce qu'il y a eu de la répression? Est-ce que le syndicat existe encore?
Alors, très bonne question. Donc, ils ont lutté il y a 10 ans pour mener une action pour ouvrir une section syndicale de la CDT, la Confédération des Travailleurs, un peu l'équivalent de la CGT au Maroc. Ils ont réussi. Et donc, les mineurs se sont réunis et ont mis en place une plateforme de revendication. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé l'application du droit du travail. Ils ont demandé à avoir des contrats normaux. Ils ont demandé à être protégés un minimum contre les poussières d'arsenic mortelles dans les galeries de la mine. Ils ont demandé donc l'application de la loi. Et tout ça a fonctionné. Il y a eu des occupations, des manifestations. Finalement, ce mouvement-là s'est arrêté il y a 10 ans parce que le gouvernement marocain, à cause du fait que la mine appartient à la famille royale, a fait pression sur la centrale syndicale de la CDT au niveau national pour que les sous-directions syndicales qui avaient été créées au sud, près de la mine, soient fermées. Donc, du jour au lendemain, ces représentants syndicaux ont été en quelque sorte limogés, ils ont été démis de leurs fonctions, leur bureau a fermé, ça n'existait plus.
Oui, donc aujourd'hui, on peut dire que le syndicat a été laminé, ce qui n'est pas très surprenant dans un pays comme le Maroc. Alors, un premier constat donc, qui vient d'être fait sur la question des libertés. Deuxième constat à faire pour nos auditeurs, c'est les conditions de travail. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé pour les gens qui extraient du cobalt et donc incidemment de l'arsenic dans ce genre de mine?
Alors, la mine de Bouazer est une mine souterraine, ça veut dire qu'il y a des galeries donc, à 300 mètres, 400 mètres sous terre. Et donc, ça n'est pas le modèle qui est de plus en plus répandu aujourd'hui de la grande mine à ciel ouvert, où il y a peu de main-d'œuvre et beaucoup de machines très grosses. Dans ce cas-là, à Bouazer, on a beaucoup de main-d'œuvre. Ce n'est pas une très grande mine, en revanche, il y avait 1200 mineurs sur le site quand j'y suis allée, donc c'est beaucoup. Et Bah, eux, très manifestement, leur santé était est sacrifiée à l'extraction. Parce que même quand il n'y a pas d'arsenic dans le gisement, il y a souvent des substances qui sont nocives. Il peut y avoir toutes sortes de choses, du plomb, du cadmium. Mais même en l'absence de ces substances toxiques, l'extraction minière génère beaucoup de poussière. Il faut se protéger contre cette poussière qui peut donner la silicose, la fameuse maladie des mineurs. Et dans ce cas-là, à Boisère, les mineurs qu'on a rencontrés, ils étaient très très nombreux à avoir la silicose. Ceux qui avaient cessé de travailler récemment avaient été en quelque sorte payés par la Managem pour ne pas déclarer leur maladie, pour qu'elle ne soit pas reconnue en maladie professionnelle. Ils étaient malades, ils n'avaient pas de quoi se soigner. Et sur la peau de certains de ces mineurs, il y avait aussi des taches assez caractéristiques de l'intoxication à l'arsenic qui donne un cancer de la peau, qui peut être visible au début, détectable par ce genre de tâches au tout premier stade. Et bon, voilà, un état de santé vraiment assez catastrophique pour ces mineurs, dont beaucoup, de toute façon, travaillent dans des conditions très, très précaires, et ce, délibérément, pour qu'on puisse se débarrasser de facilement, notamment en cas de problème médical. L'autre aspect des conditions de travail, c'est, d'après leurs témoignages, l'absence d'ambulance, l'absence de structures de soins adéquates sur place, le fait même qu'ils doivent manger au fond de la mine et pas dans un réfectoire, comme pourtant les textes sur le travail des mineurs le prévoient, même au Maroc.
Donc des conditions de travail avec des maladies professionnelles non reconnues comme telles. Donc on devine bien la surexploitation qui peut être faite dans ce domaine-là. Il y a également un constat à faire plus général sur l'environnement et aussi sur les familles, les villages, les habitations qui sont à proximité.
Alors, évidemment, parce que on le dira jamais assez, mais en fait, l'extraction d'une mine, contrairement d'ailleurs à l'extraction dans une carrière, ça génère énormément de déchets. On va chercher des éléments dont la concentration dans la roche est vraiment très 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 faible. On parle de moins d'1% de concentration dans la roche. Pour certains éléments, c'est encore bien moins. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire 99% de ce qui sort de terre, c'est du déchet. Et quand on a comme ça une roche pleine d'arsenic, c'est du déchet extrêmement toxique qui va être là à encombrer et potentiellement à polluer tout ce qu'il y a autour pendant des décennies, des siècles, voire plus longtemps. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé assez classiquement ? Cette mine de Bouazer au Maroc, donc une mine coloniale ouverte sous l'occupation française dans les années 30, le cobalt servant à l'époque à fabriquer des alliages pour l'armement, les Français qui exploitaient cette mine ont déversé tous les déchets de la laverie pour concentrer le minerai dans la vallée de l'Oued, c'est-à-dire le fleuve qui est sec la majeure partie du temps et qui traverse les oasis, donc les lieux de vie les plus précieux de cette région quasi désertique. Et le déversement de déchets a continué pendant très 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 longtemps jusqu'à ce que l'entreprise actuelle commence à construire des digues pour stocker les déchets. Mais en fait, ces digues, étant donné les précipitations au Maroc, le fait que quand il pleut sacrément fort et ça emporte tout. En fait, ces digues ne tiennent pas et donc les déchets ruissellent dans l'Oued.
Donc également, alors en plus des conditions de travail, des mauvaises conditions de travail qui sont directement constatées, également d'énormes problèmes sur l'environnement et puis sur les libertés, on en a parlé précédemment.
Alors sur la question de la pollution, il faut préciser que lors de cette enquête, nous avons fait des prélèvements pour établir la pollution parce que ces problèmes sont farouchement niés par l'entreprise minière, comme c'est régulièrement le cas. Et donc, on a fait des prélèvements d'eau et de terre. Je suis rentrée de ce reportage, je suis allée les faire analyser dans un laboratoire à Montauban. Et en fait, la concentration en arsenic dans l'eau, dans la terre, était de 5 à 40 fois supérieure au seuil maximum.
5 à 40 fois.
Donc très 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 importante. Ce qui voulait dire pour les gens qui utilisent l'eau des puits pour boire, pour les gens, comme on l'a vu, qui cultivent dans cette terre, ce qui revient à cultiver à peu près dans des déchets miniers pleins d'arsenic, une situation en fait d'urgence sanitaire absolue. Et ensuite, cette enquête a été approfondie grâce à un partenariat que j'ai créé avec des médias allemands, deux chaînes de radio-télévision, un journal, la Süddeutsche Zeitung, et de nouveaux prélèvements ont été réalisés. Dans le cadre de cette enquête, les analyses ont été réalisées par un laboratoire allemand qui a trouvé des concentrations semblables.
D'accord. Donc on voit que le travail que tu as effectué avec ta petite équipe a été confirmé par d'autres en matière de pollution qu'on peut qualifier de gigantesque. Alors avant d'aller plus loin et de voir ce qui a pu bouger, puisqu'il y a quand même des choses qui ont bougé depuis que tu as fait ce reportage, on va faire une petite pause musicale avec une chanson de circonstance sur le travail à la mine, et on revient juste après.
Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal, and the straw boss said, well, bless my soul, you load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. I was born one morning, it was drizzling rain. Fighting and trouble are my middle name. I was raised in the canebrake by an old mama lion. Can't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me coming, better step aside. A lot of men didn't, a lot of men died. One fist of iron, the other of steel. If the right one don't get you, then the left one will. You load 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store.
Alors Célia, on revient donc sur notre sujet des mines qui sont de plus en plus, comment dire, à la mode en fin de compte, avec davantage de sollicitations compte tenu du fait qu'on recherche des métaux pour la dite transition écologique et notamment les batteries de nos voitures. Alors ton travail d'investigation au Maroc sur la mine de Bouazère a fait parler, il a fait parler surtout en Allemagne plus qu'en France, puisque je le rappelle, cette mine a comme client BMW et potentiellement Renault. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu ces révélations en Europe, puisqu'en France, on n'en a pas trop entendu parler?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qu'on a sorti, nous, c'est en plus des problèmes de toxicité liés à l'extraction de ce cobalt, hein, donc pour les batteries des voitures électriques, un problème lié à ce qu'on appelle le devoir de vigilance des entreprises, c'est-à-dire que BMW a été obligé de reconnaître de manière très formelle que depuis 2020, ils faisaient la promotion. Ils avaient basé leur campagne de publicité pour leur véhicule électrique sur le cobalt responsable du Maroc et qu'ils n'avaient pas mené la moindre enquête sur place pour vérifier si c'était vrai. Ce qui est une violation du devoir de vigilance des entreprises qui sont censées être responsables de leur chaîne d'approvisionnement. Et qui pose aussi problème du point de vue de la publicité mensongère. Et la nouvelle, c'est qu'après la publication de nos enquêtes, donc conjointement avec Reporters, Süddeutsche Zeitung, la NDR, la WDR et un média marocain indépendant, Awamish, l'État fédéral allemand a mis BMW en examen. Donc il y a une procédure qui a été ouverte contre BMW. Ça, c'est la première chose qui s'est passée. Et ça remonte à décembre dernier, donc décembre 2023. Et sur place, il s'est passé aussi pas mal de choses. Parce que d'un côté, comme c'est une des grandes mines du royaume et une mine qui rapporte énormément au roi du Maroc, hein, on parle de 220 millions d'euros par an à peu près, tout le régime s'est mis en branle pour produire un contre-récit. C'est-à-dire pour raconter que nous, ce qu'on avait expliqué dans nos enquêtes, c'était complètement faux, qu'on s'était contenté d'arriver dans des villages et d'interviewer des enfants, que c'était mensonger, qu'on travaillait probablement pour des officines étrangères qui voulaient saboter l'économie marocaine. Enfin, on était sous le feu de tout un tas d'accusations et de rumeurs. Néanmoins, à la mine de Bouazer, il y a des grosses pelleteuses qui se sont mises en action très rapidement pour mener des travaux d'ampleur, en particulier là où sont stockés une partie des résidus miniers, donc les déchets miniers qui sont issus de la concentration. Et on a vu apparaître sur les photos satellites des grands bassins de stockage qui ressemblent beaucoup plus aux normes actuelles, avec des membranes géotextiles au fond. C'est-à-dire que, bon, ils ont essayé de faire une mise aux normes très rapide, sur laquelle moi j'ai beaucoup de réserves, parce qu'on est dans un endroit très venteux, avec de la poussière, donc là, une poussière pleine d'arsenic et d'autres substances toxiques. Et en fait, il y a des gens qui habitent à quelques dizaines de mètres de là où tous ces travaux ont été menés. Donc, en fait, c'est très, très inquiétant pour leur santé. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ont été exposés ces gens? À quoi ont été exposés les travailleurs? Ils ont remobilisé énormément de pollution pour faire ces travaux. Apparemment, l'une des entreprises sous-traitantes la plus citée dans nos enquêtes ne travaille plus avec la Managem et une grande partie des contrats ont été régularisés. C'est-à-dire les contrats de sous-traitance illégaux ont été révoqués, n'existent plus. Donc il y a des avancées concrètement qui vont dans le sens du droit du travail. Et puis, par ailleurs, une des conséquences sympathiques de cette enquête, c'est que la Managem, donc cette entreprise, a annoncé récemment dans un entretien dans Le Point qu'elle m'attaquait, donc moi, Célia Izoard, ainsi que le journal Reporter, en diffamation.
Ouais, on verra, parce que bon, entre le discours et la réalité, on a quelquefois des surprises dans le domaine. C'est peut-être du discours, mais on voit que l'entreprise a cherché à habiller en quelque sorte la situation avec ses retenues qui ont été construites. Alors, BMW a du souci avec l'État allemand qui a réagi, mais il y a aussi Renault qui est censé utiliser aussi ce cobalt. Est-ce que du côté français, il y a des réactions aujourd'hui?
Non, Renault a toujours une politique de l'autruche dans ce domaine. L'entreprise s'est toujours contentée de répondre la même chose à toutes les demandes d'interview et en gros que tout ça obéit à des normes, que la Managem aurait été évaluée par des spécialistes de l'évaluation des mines, obéirait à des normes ISO. Donc pas de réaction. Renault, s'il reste client de la Managem, ce qui sera probablement le cas, va de toute façon bénéficier des audits et de la mise aux normes qui est effectuée pour BMW.
Alors, on voit que ça bouge pas suffisamment. Ça bouge aussi avec un peu de menace, puisqu'il y a en tout cas une annonce de procès en diffamation. On verra si, s'ils iront jusque-là. C'est peut-être une posture. Donc, au Maroc, c'est pas la joie pour dans les mines de cobalt. Bon, on savait déjà avec le Congo et avec pratiquement tous les pays du monde, on peut le dire, que le travail de la mine pose d'énormes problèmes de santé pour ceux qui y travaillent, mais aussi pour le voisinage. Et la question pour terminer, mais en France, est-ce que aujourd'hui, ça a été un débat important dans l'Ariège notamment, est-ce qu'aujourd'hui, on sait produire propre et sûr en matière d'extraction de minéraux ? Puisque finalement, on a, avec un peu moins de cruauté, mais on peut aussi avoir des situations en partie comparables sur le sol français.
Oui, sur lesquelles vous avez travaillé au sein de l'association Henri Pézra. Oui. Alors, la question me permet de compléter un peu ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu disais, les mines gênent le voisinage. Alors ça, c'est un euphémisme. C'est, on ne peut pas se contenter de dire ça. En fait, l'extraction minière, c'est vraiment un phénomène massif à l'échelle de la planète. C'est presque 10% des émissions carbone de tout secteur confondu, c'est un des principaux facteurs aujourd'hui de déforestation et de pollution des eaux à l'échelle globale. C'est le premier producteur de déchets au monde, la mine. Donc, moi, mon travail, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est vraiment de montrer que l'activité minière crée des phénomènes planétaires. Que c'est devenu une activité qui a des conséquences démesurées. Pourquoi ? Ben, en raison des quantités qu'on extrait, mais aussi en raison du système même de la mine industrielle. C'est-à-dire que si les mines sont polluantes et destructrices, ce n'est pas parce que les entreprises minières sont méchantes et qu'elles ne veulent pas appliquer des réglementations. C'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, aller chercher des substances qui sont présentes à moins de 1% dans un gisement, ça veut dire produire 99% de déchets. C'est des déchets qui ne devraient pas être en contact avec les milieux, mais qui en réalité le sont fatalement, parce que ça veut dire des vallées entières de résidus miniers, des montagnes de stériles miniers. Donc forcément, il pleut dessus, forcément, il y a des contacts et il y a des pollutions. Donc ça, c'est très important. Le système de la mine à ciel ouvert, c'est un grand agent de déforestation et ça nécessite aussi énormément d'énergie, tout ça. Pour faire une nouvelle mine, souvent, il faut un barrage hydraulique. Un barrage hydraulique, ça veut dire déplacer des populations, déplacer des villages, ça veut dire une évaporation d'eau. Ça... Donc, tout ça a des conséquences qui sont pas locales, mais au moins régionales, sinon nationales, sinon continentales. Comme j'ai documenté... On commence à le savoir, mais quand un barrage de résidus miniers se rompt, ça peut parcourir les cours d'eau sur 600 km. C'est ce qui s'est passé au Brésil en 2015, puis en 2019 dans des mines de fer. Donc, la mine responsable, ça aussi, j'essaie de le documenter, je dis, bah, finalement, la mine responsable, c'est un peu ce que disait Stuart Kirsch, un spécialiste des mines, c'est comme une créature fantastique que beaucoup de gens dont beaucoup de gens ont entendu parler, mais que personne n'a jamais vu. Un concept qui cherche avant tout à rassurer. Mais personne n'est jamais capable de citer une mine responsable. Je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui en avait vraiment vu une et qui était capable de me donner un exemple.
Donc, si vous voulez en savoir plus sur ce sujet de cette ruée minière au XXIe siècle, alors on a parlé beaucoup du Maroc, mais il y a quand même quelques analogies à faire avec la France et bien sûr beaucoup d'autres pays du monde. Hein. Donc, je vous conseille de lire le bouquin de Célia Izoard qui est paru aux éditions du Seuil, hein, La ruée minière au XXIe siècle. Et je remercie Célia de toutes ces explications. Si tu as un mot de la fin.
Ben, le mot de la fin, c'est que merci à toi, Philippe. Et c'est aussi le fait que il y a une enquête publique qui va commencer bientôt par rapport à l'ouverture possible d'une mine de lithium en Allier. Et que c'est un projet très important qui va aussi déterminer en fait une partie de la relance minière européenne. Ça passe ou ça casse. Le mot de la fin, c'est il faut s'intéresser à nos besoins réels. Il faut s'intéresser à la consommation minérale, consommation en métaux des entreprises. Parce que finalement, c'est cette voracité-là qui nous met directement en danger.
Eh bien, merci Célia.
Merci beaucoup, à bientôt.
Et à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier, à retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Caylus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Pas vrai.
Ah bah si. Et mon patron, il change de costume deux fois par jour.